Donc, il y a eu déjà des réponses, une partie des réponses concernant ces interrogations. Et je m'intéresse particulièrement au niveau de vie et aux conditions de logement. Donc, il y a eu beaucoup de progrès, notamment en ce qui concerne les transferts en cash, qui ont été doublés, les montants ont été relevés, beaucoup d'enfants en ont bénéficié. Ma question est beaucoup plus précise. Est-ce que vous avez envisagé d'élargir encore cette assistance spécifique pour couvrir davantage d'enfants, notamment les enfants demandeurs d'asile? Et quelles sont les mesures? Et d'une manière générale, pour s'attaquer à un problème épineux, à savoir la pauvreté parmi les enfants. Comme j'ai dit, il y a eu pas mal de choses qui ont été faites, mais quand on voit les données, on voit que la pauvreté parmi les enfants, elle est très préoccupante. Donc, qu'est-ce qui est fait pour infléchir cette tendance? En matière de conditions de vie, quelles sont les mesures faites, prises ou envisagées pour garantir l'accès à l'eau potable et aux installations sanitaires, notamment dans le monde rural, dans les zones reculées. En matière de droit à l'environnement, monsieur le chef de la délégation nous avait informé de l'adoption d'un code en 2017, de l'existence d'une agence pour l'environnement. Ma question, quel est l'impact en ce qui concerne la prise en considération du changement climatique sur les droits de l'enfant et notamment la surveillance de l'état de santé, la prise en considération des catastrophes, la prise en considération de l'opinion des enfants, de leurs préoccupations, etc. On sait qu'en Géorgie, comme partout dans le monde, les enfants ont été très impliqués dans les vendredis pour l'environnement, ainsi de suite. Dans quelle mesure leurs préoccupations, leurs opinions ont été prises dans l'élaboration des politiques ayant trait à l'environnement et particulièrement au changement climatique? Mes dernières questions porteront sur le suivi de mise en œuvre du protocole facultatif concernant les enfants dans les conflits armés. Et davantage, je m'interroge sur ce qui a été concrètement entrepris et fait pour mettre en œuvre la stratégie que la Géorgie a adoptée pour lutter contre le terrorisme. Une stratégie qui couvre la période qui va jusqu'à 2026. Très bien, mais concrètement, qu'est-ce qui a été fait pour prémunir, pour premièrement s'attaquer aux causes profondes du terrorisme, notamment les causes sociologiques, économiques, idéologiques? Qu'est-ce qui est fait pour prévenir justement la récupération des enfants, les utilisations dans des actes terroristes et ainsi de suite. De même, qu'est-ce qui est fait ou envisagé pour incriminer d'une manière expresse dans le code pénal l'interdiction, l'incrimination de l'utilisation et l'enrôlement des enfants de moins de 18 ans par les forces armées et les groupes armés non étatiques? De même, en ce qui concerne les écoles militaires, est-ce que vous pouvez nous informer sur les mesures prises et les garanties qui existent pour que les étudiants, les enfants de moins de 18 ans qui suivent leur scolarisation dans des lycées militaires, premièrement, sont soumis au même programme d'éducation et des curricula que celui qui se trouve dans le système général de l'éducation, qui ne sont pas obligés d'être soumis à la discipline militaire ni à l'utilisation des armes à feu et notamment les balles réelles avant l'âge de 18 ans. Également, j'ai des interrogations en ce qui concerne la mise en place d'un système d'identification parmi les demandeurs d'asile de ceux qui ont fait l'objet d'une certaine utilisation dans les conflits armés. Est-ce qu'il existe ce mécanisme pour savoir que tel ou tel demandeur d'asile, oui, il a pris part d'une manière directe ou indirecte à un conflit armé et donc qu'est-ce qui est prévu pour sa réintégration, sa réhabilitation et sa réinsertion? Et je vous remercie d'avance.
I now give the floor to Zahra Ratu.
Merci, Madame la Présidente, pour la parole accordée. Et je tiens à saluer